Pour nous, c'est parti. Le 18-20 de France Inter est ouvert. Installez-vous et soyez les bienvenus sur la planète et sa banlieue. Le 18-20, c'est d'abord ce que vous devez retenir de cette journée du mercredi 19 janvier. Avec le journal de Sébastien Legénie. Bonsoir Sébastien.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
Et l'essentiel commence par une disparition brutale.
La mort aujourd'hui de l'acteur français Gaspard Ulliel, victime d'un grave accident de ski en Savoie. Gaspard Ulliel, 37 ans, jeune star du cinéma français, deux fois césarisé. Une enquête a été ouverte. On reviendra sur les circonstances de ce drame avec le service police-justice. La campagne présidentielle s'invite au Parlement européen. Avec un discours du président français très sévèrement critiqué par l'écologiste Yannick Jadot. Une politisation des débats qui fait enrager les eurodéputés, on l'entendra. À suivre aussi, Boris Johnson fragilisé, cherche la parade. Il a décidé de lever les restrictions sanitaires la semaine prochaine au Royaume-Uni. Écho de campagne avec Valérie Pécresse qui s'en prend à Éric Zemmour sur la question de l'accueil des enfants handicapés. Et pour finir, un constat accablant sur les emballages industriels quand le packaging l'emporte sur l'information.
À 18h15, un jour dans le monde, nous aussi nous irons à Bruxelles après ce discours qui lance la présidence française de l'Union mais qui revient un peu en boomerang dans la campagne électorale bien française. Mais nous parlerons aussi de défense et souveraineté. À 19h20, c'est le téléphone sonne ce soir, l'endométriose qui devient enfin un enjeu puisqu'une stratégie nationale de lutte contre l'endométriose a été lancée. On reviendra sur ce que ça veut dire mais surtout on a envie de vous entendre. Une femme sur 10 est perclue de douleurs pendant ses règles et la moyenne d'un diagnostic, c'est 7 ans. Qu'est-ce qui va bien pouvoir changer, faute de remède efficace d'ailleurs pour l'instant, à vos téléphones au 01 45 24 7000.
France Inter.
Quand le Parlement de Strasbourg ressemble au Palais Bourbon.
Oui, c'était ce matin le grand oral d'Emmanuel Macron devant l'hémicycle européen, son premier discours pour lancer officiellement la présidence française du Conseil de l'Union européenne. Pendant 30 minutes, le chef de l'État a affiché les priorités de la France pour les 6 mois à venir, défendant l'état de droit, trésor européen selon lui, appelant à une réforme de l'espace Schengen ou un nouvel ordre de sécurité avec l'OTAN face à la Russie. Discours suivi ensuite, comme le veut la tradition, un long échange avec les eurodéputés, échange parfois tendu comme avec l'écologiste Yannick Jadot, debout à 3 mètres seulement du président français, extrait de cette intervention très musclée.
Vous resterez dans l'histoire, monsieur le président de la République, le président de l'inaction climatique. Parce qu'au fond, vous êtes un climato-arrangeant. Vous préférez signer des armistices avec les lobbies plutôt que de mener la guerre contre le dérèglement climatique. Vous préférez procrastiner, reporter, renoncer, fantasmer sur des solutions dans 10, 15 ou 20 ans, plutôt que de décréter, comme nous voulons le faire, la mobilisation générale.
L'eurodéputé Europe Écologie Les Verts, Yannick Jadot. Alors cette intervention n'a pas été du goût de tout le monde à Strasbourg, y compris au sein des écologistes. Les eurodéputés regrettent que la campagne présidentielle française ait à ce point déteint sur les institutions européennes. Angélique Bouin était au Parlement de Strasbourg.
Visiblement excédé par l'intervention d'Yannick Jadot, l'Espagnol Iracche Garcia-Pérez, chef du groupe des sociodémocrates, a été la première à dénoncer à la tribune un manquement au règlement.
Malgré les différences idéologiques que nous avons tous, je demande que l'on soit respectueux avec le débat d'aujourd'hui.
Pardon de le dire, mais vous nous avez menti, ne s'est pas pour autant privé de lancer le républicain François-Xavier Bellamy, une tonalité des débats qui choque le libéral belge Guy Verhofstadt.
Moi, j'ai surtout entendu des députés français en train de râler sur la politique, pas européenne, sur la politique française. Donc moi, je me demandais si j'étais à l'Assemblée nationale ou au Parlement européen.
Dès lors que la France n'a pas décalé sa présidence européenne, c'était inévitable, estime de son côté le patron des Verts au Parlement, le Belge Philippe Lamberts.
Il ne fallait pas avoir fait Bac plus 19 pour se douter que le débat électoral, la confrontation démocratique fasse irruption dans cette enceinte de la démocratie européenne qu'est le Parlement européen.
Il était normal que Yannick Jadot confronte le discours d'Emmanuel Macron à sa pratique sur les sujets européens, ajoute celui qui avait laissé son tour de parole à Yannick Jadot, seul eurodéputé, candidat français à l'élection présidentielle. Strasbourg, Angélique Bouin, France Inter.
Et Sébastien, on en vient à ce drame qui bouleverse le cinéma français.
La mort brutale donc de l'acteur Gaspard Ulliel, décédé aujourd'hui à seulement 37 ans après un accident accident de ski hier dans une station de Savoie. Bonsoir Emmanuel Leclerc.
Bonsoir.
On sait encore peu de choses sur les circonstances de cet accident, juste qu'il a percuté un autre skieur sur les pistes de la station savoyarde de La Rosière.
Oui, ce que l'on sait pour l'heure, c'est que l'accident de ski a eu lieu hier à 15h58, précisément au croisement de deux pistes bleues à Montvalaisan sur le domaine de La Rosière. Pour le directeur des pistes, il y a eu alors collision entre Gaspard Ulliel et un autre skieur. Mais dans le choc, c'est l'acteur qui a chuté, sa tête a tapé, il a perdu connaissance. Selon nos confrères du Dauphiné Libéré, il ne portait pas de casque, les pisteurs sont arrivés, puis le médecin urgentiste qui a très vite appelé l'hélicoptère des secours avant que l'acteur soit transporté à l'hôpital de Grenoble, comme l'avait été le pilote Michael Schumacher en 2013 après sa chute contre un rocher à Méribel. Une enquête a été ouverte par la procureure d'Albertville qui devrait, dans les minutes qui viennent, préciser encore les circonstances de cet accident. Ce sont des policiers, des CRS de montagne de Grenoble basés à Courchevel qui ont été envoyés pour les premières constatations judiciaires pour entendre évidemment l'autre skieur qui lui est ressorti indemne de la collision, ainsi que les témoins et les responsables de la station.
Emmanuel Leclerc du service police-justice, c'est le deuxième décès sur les pistes savoyardes en quelques jours. Ce week-end, une fillette britannique de 5 ans est morte, elle aussi après avoir été percutée par un homme de 40 ans sur le domaine de Flaine en Haute-Savoie. Gaspard Ulliel, jeune acteur talentueux, la carrière fulgurante dont la mémoire est ce soir saluée par le Premier ministre, par la ministre de la Culture, un acteur d'exception selon Roselyne Bachelot. Il tourna avec André Téchiner, Jean-Pierre Jeunet, Bertrand Tavernier. C'est lui qui incarnait Yves Saint-Laurent dans le film de Laurent Bonello, César du meilleur acteur pour sa performance dans Juste la fin du monde de Xavier Dolan et bientôt à l'affiche dans une série Marvel. Gaspard Ulliel, acteur à la gueule d'ange, mais pas seulement, comme il aimait le rappeler lui-même.
C'est vrai que c'est un peu fatigant à un moment de s'entendre à chaque fois dire qu'on est la belle gueule du cinéma français ou enfin je ne sais quel. C'est peut-être un plus par rapport au métier que j'exerce, mais je pense que ce n'est pas que ça non plus. Il y a un moment où on a envie d'être autre chose que, enfin, de pas être juste ramené en permanence à son physique. Après, je tends un peu la joue pour, puisque j'ai accepté aussi d'être ambassadeur Chanel il y a déjà pas mal d'années maintenant. Donc voilà, c'est aussi une image assez forte que je véhicule en tant que égérie, mannequin, je ne sais quoi.
Voilà le regard de Gaspard Ulliel sur lui-même. C'était chez nos confrères de France Info en 2018. La carrière de l'acteur français en 8 films s'est aussi retrouvée sur franceinter.fr.
Et à 18h presque 8, Sébastien s'est-il réjoui un peu trop vite de la baisse des chiffres d'Omicron?
Les épidémiologistes croyaient voir depuis quelques jours le bout du tunnel, le pic de la cinquième vague avec le début enfin d'une baisse des contaminations. Mais les derniers chiffres d'hier, plus de 460 000 cas en 24 heures, interrogent les plus optimistes. Hier, les chiffres continuaient aussi de progresser dans plusieurs régions, Île-de-France et Corse notamment. En attendant de voir ce soir si cette instabilité se confirme, le gouvernement veut prolonger en tout cas le télétravail 3 jours minimum pour encore 2 semaines. La France n'en a donc pas fini avec le variant Omicron. En revanche, la Grande-Bretagne, elle a décidé de desserrer l'étau face à une forte baisse des contaminations. Fin de l'essentiel des restrictions sanitaires la semaine prochaine, à partir du jeudi 27 janvier, le port du masque ne sera plus obligatoire, mais seulement recommandé dans les endroits fermés et un pass sanitaire ne sera plus imposé pour l'accès aux boîtes de nuit. Une levée des contraintes qui est aussi très politique. C'est le Premier ministre britannique Boris Johnson qui en a fait l'annonce aujourd'hui à la Chambre des communes. Bojo toujours attaqué par les députés sur ses fêtes à Downing Street et de plus en plus lâché par son propre camp. À Londres, Richard Place.
Juste avant l'ouverture de la séance, on apprend qu'un député conservateur rejoint les rangs travaillistes. Il est assis derrière son nouveau leader quand il prend la parole. Keir Starmer essaie de se faire entendre dans le brouhaha de ses adversaires. Ils sont très bruyants, je parie que leurs chefs leur ont demandé d'apporter leur bouteille. La référence aux folles soirées de Downing Street fait mouche. Pour une fois, les blagues viennent de l'autre côté, les attaques frontales aussi.
Quand un Premier ministre passe son temps à essayer de convaincre les Britanniques qu'il est plus stupide que malhonnête, n'est-il pas temps qu'il parte ?
Mais Boris Johnson doit aussi se retourner car certains coups viennent de son propre camp, d'élus qui disent l'avoir toujours défendu, jusqu'ici.
Mais j'attends de mes dirigeants qu'ils assument leurs responsabilités. Au nom de Dieu, partez.
Johnson ne démissionnera pas, il le répète, et contre-attaque en annonçant la levée de toutes les restrictions anti-Covid en Angleterre, louant ses propres choix.
Confronté aux plus grands défis depuis la Seconde Guerre mondiale, tous les gouvernements se sont trompés sur certains points. Mais celui-ci a eu raison sur les décisions majeures.
La séance s'achève dans le bruit. Épuisé, le président de la Chambre, arbitre des débats, oublie son micro, toujours allumé. Quelle journée! Londres, Richard Place, France Inter.
Cherche-t-il lui aussi à se faire pardonner? Novak Djokovic, expulsé d'Australie en début de semaine car non vacciné, a racheté aujourd'hui 80% d'une biotech danoise qui s'attache à développer un traitement contre le Covid. Eux pratiquaient le harcèlement en ligne contre deux parlementaires français et un médecin, des centaines de messages de haine en quelques heures. Huit membres d'un groupe anti-vaccin ont été arrêtés hier dans plusieurs départements français. Ils comparaîtront bientôt devant un tribunal à Paris. Une nouvelle affaire d'agression sexuelle sur mineurs au sein du clergé lyonnais. De très nombreuses victimes se sont déclarées à la commission de l'église catholique, victime du père Louis Ribes, mort en 1994 et qui avait exercé dans les années 80 et années 70 dans les diocèses de Lyon, Grenoble et Saint-Étienne. On y reviendra en détail dans le journal de 19h d'Hélène Philly.
Et dans l'actualité politique de ce jour, Valérie Pécresse était en campagne dans le Lot.
Pas un mot sur l'Europe, la candidate est venue parler ruralité et surtout rencontrer des familles d'enfants en situation de handicap. Une réponse à Éric Zemmour qui dénonçait la semaine dernière l'obsession de l'inclusion. Reportage à la Bastide Murat avec Anne Souhaitement.
Carnet avec Jacques Chirac en couverture à la main, Valérie Pécresse vient aujourd'hui rencontrer des familles qui vivent avec le handicap à la maison.
Et vos enfants adultes sont avec vous ou sont avec nous.
Salaire des accompagnants, inclusion des enfants en situation de handicap en école ordinaire, la candidate de la droite revendique de prendre du temps hors micros et caméras. Mais à l'issue de la rencontre, le message est bel et bien politique.
Moi, je ne crois pas à la société de la performance. Je ne crois pas à une France dans laquelle on gomme les différences et on gomme les fragilités. Je crois qu'au contraire, il faut qu'on sache faire la place aux personnes les plus vulnérables.
Un tacle adressé à Éric Zemmour qui, la semaine dernière, dénonçait une supposée obsession de l'inclusion des enfants handicapés.
Propos très malheureux parce que je crois qu'il se trompe quand il dit que avoir un enfant handicapé dans sa classe, c'est une mauvaise chose pour les enfants qui n'ont pas de handicap. Je pense que tous les enfants doivent apprendre la différence et la vulnérabilité, que c'est un apprentissage de vie et que pour eux c'est très précieux de voir des enfants qui sont différents.
Déconjugalisation de l'allocation adulte handicapé, pension de réversion du dernier parent pour un enfant handicapé tout au long de sa vie. Dans les pas de Jacques Chirac, Valérie Pécresse égrène ses propositions selon son tempo. Elle est persuadée que c'est comme ça qu'elle l'emportera, décrypte un membre de son équipe de campagne.
Au chapitre politique encore, le retrait d'Arnaud Montebourg dans la course à la présidentielle officielle depuis ce matin, le chantre de la remontada qui refuse d'apporter son soutien à un candidat de gauche.
Et puis on termine avec ce conseil aux consommateurs, toujours se méfier de l'emballage.
Conseil avancé par la CLCV qui s'est intéressée de très près à la façon dont les industriels de l'agroalimentaire présentent leurs produits. L'association de défense des consommateurs a passé au crime durant 5 ans, plus de 900 produits. Le constat est accablant. Les promesses ne sont pas tenues. Une belle fraise sur un yaourt qui ne contient que de l'arôme de fruits, des steaks de soja avec seulement 12% de soja. Les exemples sont légion. Il est donc urgent de réglementer le secteur, Agnès Soubiran.
Peut-on véritablement parler de raviolis au bœuf lorsqu'ils ne contiennent que 4% de viande? Non, estime Lisa Follet, responsable scientifique et alimentation à la CLCV. Il faut établir un cahier des charges contraignant.
Nous, on préconise par exemple une quantité minimale de 10% de viande dans les raviolis à la viande et un minimum de 60% de poisson dans le poisson pané, qui nous paraît tout à fait juste pour le consommateur. Or aujourd'hui, il n'y a aucune quantité minimale réglementaire.
Cette absence de réglementation laisse le champ libre aux as du marketing et du packaging, l'art de vendre en attirant l'œil du consommateur et en jouant sur les envies et les tendances du moment.
Quand le consommateur voit un drapeau français sur un emballage, il peut se dire que voilà, il achète un produit local avec des ingrédients locaux et c'est pas forcément le cas.
Souvent le produit est conditionné en France, mais les ingrédients viennent d'ailleurs. L'association de consommateurs demande donc que soit précisée la liste des pays sans se contenter de la mention Union européenne ou hors Union européenne. Un point de satisfaction tout de même, en 5 ans, le nombre de produits affichant le Nutri-Score a nettement augmenté.
Voilà, Agnès Soubiran, ne pas se fier aux étiquettes dans les rayons comme dans la vie. Ce sera mon dernier mot.
Eh ben, Jean-Pierre. Eh ben, merci beaucoup.